Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Au début, il y a un livreur à vélo, Jérôme Pimaud, un des premiers à avoir dénoncé les dures conditions de ce travail d'un nouveau genre. Il a d'ailleurs raconté son expérience dans Les Pieds sur Terre et peu après, sans qu'on sache si les deux événements étaient liés, il a perdu son job. Il s'est aussi beaucoup baladé sur les réseaux sociaux, scrutant les profils de livreurs comme lui. Et c'est sur une page Facebook qu'il repère le texte de Jules, qu'il qualifie de poignant, précis et authentique. Il le copie dans un post de blog sur Mediapart. Le récit fait mouche et circule à toute allure. En moins de deux, il arrive dans nos boîtes mail, comptes Twitter et autres réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, devant la force du témoignage et les réactions qu'il suscite, la direction de son entreprise, Frichti, réagit sur RTL et dit que toute l'équipe a été hyper affectée à la lecture de ce témoignage. Le directeur des opérations promet d'ouvrir une enquête interne et de mettre davantage de liens humains dans les ateliers de préparation. L'entreprise assure qu'elle mettra en place une assurance civile professionnelle pour les livreurs à vélo. Il faut dire que le marché français de la livraison de repas à domicile représente aujourd'hui 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et pour le directeur général d'Uber Eats, ça n'est qu'un début. Le marché devrait encore doubler chaque année dans les 3 ans qui viennent. Au début, la start-up française Frichti, au travail Jules, se démarque avec des plats préparés maison, frais et équilibrés. Un repas complet pour 15 euros, une livraison 100% écolo et surtout des livreurs tous salariés. Mais rapidement, Frichti se dit contraint de renoncer au salariat pour l'auto-entrepreneuriat, le statut plus que précaire des autres livreurs, chauffeurs Uber ou des ramasseurs chargeurs de trottinettes électriques. Malgré cela, l'entreprise continue de se définir comme le livreur du bonheur et sa cofondatrice y tient beaucoup. Elle a même écrit un livre qui s'appelle « Des patrons inspirants pour un monde meilleur ». Dans son post Facebook, le livreur Jules Salé écrit lui au contraire, je cite « Faut-il balayer 2 siècles d'acquis sociaux pour satisfaire des cadres dynamiques qui veulent garder la ligne en mangeant des carottes râpées, emballées dans 3 boîtes en plastique livrées en 7 minutes à leur agence de design par des esclaves à vélo ?» Tout de suite, on l'écoute au micro de Rémi Douat.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Donc, je m'appelle Jules, j'ai 30 ans, j'habite en banlieue parisienne à Vincennes. Et j'ai envie de partir de Paris depuis un moment, de partir vivre à la campagne. Et donc, j'ai envie d'avoir une voiture pour me déplacer et peut-être un camion aménagé pour pouvoir vivre dedans et rencontrer des gens et voir si ça me plaît et apprendre des choses. Donc pour avoir un camion, je dois passer mon permis, et pour passer mon permis et pour avoir un camion, bah, je dois gagner de l'argent. On est au printemps 2019, j'ai 30 ans, donc je me retrouve dans une situation où il faut que je trouve un boulot assez rapidement, j'ai pas envie d'attendre 6 mois, et donc je commence à chercher un peu autour de moi, et forcément le premier truc qui me vient à l'idée, c'est d'être serveur. Serveur, barman. Bon, j'ai pas d'expérience là-dedans. Moi, j'ai des expériences dans le monde de la culture, en fait. Je suis vidéaste, et j'ai aussi organisé des événements artistiques. J'ai fait des performances, enfin bon, plein de choses qui payent pas, quoi. J'ai fait aussi plein d'autres petits boulots, la manutention, du courrier, l'administration, voilà, des choses diverses et variées et réjouissantes. Et du coup, je cherche à droite, à gauche, je commence à postuler dans les bars avec mon CV, sur lequel j'affirme ne pas avoir d'expérience dans la restauration, pour ne pas mentir. Et donc, on me dit que c'est pas la saison encore, que c'est pas encore le printemps, qu'on me rappellera. Évidemment, on me rappelle pas. Et donc, en marchant dans la rue pour chercher du boulot, je tombe sur tous ces gars qui ont des gros sacs à dos et qui livrent des repas, quoi. Et plus ça va, plus ils m'intriguent. Je me dis, mais en fait, ces mecs-là, ils bossent, quoi. Moi, je suis là en train de chercher du boulot, j'en trouve pas, et ces mecs-là bossent, quoi. Donc, j'en interromps un, comme ça, je vois attendre devant un McDo, je dis, salut, ça va, comment ça se passe ton boulot, quoi. Et le mec me dit, bah, ça se passe plutôt bien, je suis content, je gagne 50 euros en 3 heures. Moi, je fais mes calculs, je me dis 50 euros en 3 heures, attends, mais c'est plus que le SMIC. Moi, dans la restauration, on me propose le SMIC. En plus, le mec me dit qu'il a pas de patron, qu'il allume l'appli, qu'il bosse quand il veut. Alors, moi, j'ai un rythme de vie assez aléatoire, donc je me dis, mais c'est parfait. Enfin, moi, ne pas avoir d'horaire, c'est le rêve absolu. Donc je me dis, mais c'est l'Eldorado s'ouvre à moi, quoi. Vive l'ubérisation, vive les Américains, vive la Silicon Valley. Fonçons droit dedans, je commence à en parler à tout le monde en disant, ouais, mais c'est super, en fait, l'ubérisation, tout le monde crache dessus, mais ça a quand même plein d'avantages, les gens sont contents et tout. Du coup, bah, ni une ni deux, je m'inscris et donc je fais mon statut d'auto-entrepreneur, ce qui me prend 24 heures, hein, je précise que ça va très vite, hein, comme quoi l'administration a bien compris que c'était une direction qui permettait aux jeunes de trouver du boulot. Alors que bon, pour passer le permis de conduire, hein, petite parenthèse, ça fait un an que j'attends pour avoir une date, hein, et que c'est le bordel, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc en 24 heures, j'ai mon statut d'auto-entrepreneur, qui s'appelle maintenant micro-entrepreneur, avec en plus des réductions d'impôts la première année, donc c'est vachement avantageux, c'est très facile à faire et tout. Je m'inscris sur toutes les plateformes, donc Uber, Deliveroo, Stuart, Nestor, Frishti. Je réponds à tout le monde, des questionnaires, ça va assez vite, c'est 2-3 infos, tac tac tac, on met ça en ligne. Et j'attends un petit peu, et là, le premier qui me rappelle, donc c'est Frishti. Donc Frishti, pour ceux qui connaissent pas, c'est la nouvelle start-up parisienne qui propose de livrer des repas à domicile. Et la grande différence, c'est qu'ils font eux-mêmes leur cuisine en interne. Ils livrent pas des restaurants extérieurs. Et ils surfent un peu sur la vague, d'après ce que j'ai compris, de manger sainement, de pas manger des McDo ou des pizzas. Enfin, en gros, c'est se faire livrer quelque chose de sain et d'équilibré pour pas grossir, quoi. Je me fais convoquer par Frishti dans leurs locaux donc dans le Marais, et là je me retrouve donc avec une vingtaine de jeunes de mon âge, et clairement tous un peu le même style, tous en jogging, basket, casquette, enfin voilà, des mecs on pourrait dire de banlieue, même s'ils ne sont pas forcément de banlieue, mais voilà, des gens à peu près avec le même profil. Et on rentre donc dans ces locaux, et là pour moi il y a un espèce de flash, de clivage qui est visible et qui est ostensible presque. C'est-à-dire qu'on rentre dans 200 mètres carrés de locaux, de start-up, avec des baby-foot, le bar, cafétéria, tout le monde sur des canapés, et là, que des blancs. Et donc moi, j'étais avec principalement des gens de couleur. Hein. Et donc là, que des blancs, avec les MacBook dernier cri, tous hyper stylés, tous à la mode et tout. Et nous, on passe comme ça, avec ces jeunes de couleur, et je me dis, mais il y a quelque chose qui va pas dans la répartition en fait, des rôles dans cette société. Il y a une forme de ségrégation, ou comment ça se passe, enfin... Quelque chose qui me choque, que j'arrive pas à analyser sur le coup, mais que je trouve assez flagrant, quoi. Dès le début, on est dans un entretien collectif. Du coup, on est 30 face à une personne. On a juste un informaticien qui rentre notre nom dans une base de données. Du coup, dès le début, on n'a pas le sentiment de parler à quelqu'un ou d'être dans une discussion avec un représentant de l'entreprise ou quoi que ce soit. On est vraiment une masse de auto-entrepreneurs qu'on rentre dans un ordinateur. Et donc, on s'entasse tous dans un petit bocal en verre. On a un formateur qui commence à nous parler de Frishti, à nous expliquer que la start-up, c'est trop bien, tout le monde se tutoie, on fait la teuf, trop bien. Simplement, nous, on comprend très vite qu'on va pas y avoir le droit à ce côté trop bien et que nous, on va juste faire du vélo, quoi. Et donc là, il y a une petite scène qui me choque un peu, où il dit « Présentez-vous ». Et donc il y en a un qui commence, il dit « Mamadou Sissoko », et le formateur le reprend, il dit « Non, on dit « Bonjour, je m'appelle Mamadou Sissoko ». Ça m'a révulsé, ça m'a choqué, je me suis dit « C'est quoi cette manière de parler aux gens ?» Enfin, c'était en même temps, c'était genre le seul truc qu'il nous apprenait, c'était à dire « Bonjour », donc déjà rien que ça, je trouvais ça... comme formation vraiment très léger, quoi. Et puis après, ce truc de reprendre ces gens, parce qu'ils sont habitués, et c'est un fait, ils sont habitués à travailler avec des gens qui maîtrisent pas bien la langue française. Alors, j'ai pas demandé les statuts exactement, est-ce qu'ils sont français, est-ce qu'ils sont en titre de séjour, est-ce qu'ils sont immigrés, est-ce qu'ils sont fils d'émigrés, je suis pas rentré dans le détail. Mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que la très grande majorité ne parlait pas bien le français. Ça, c'est un fait. Du coup, je sors de cette réunion en me disant, ah oui, et puis ils nous disent aussi, voilà, vous allez bosser tout le temps, vous allez faire 6 heures par jour, vous allez gagner 120 euros par jour, c'est facile, il suffit de s'inscrire sur le site, au bout d'un mois, vous allez devenir Golden Member, vous allez pouvoir vous enregistrer encore plus facilement, mais il nous dit quand même que, ah oui, il y a une petite concurrence entre les coursiers, que seuls 10% des coursiers auront le droit au statut Golden Member. Donc c'est même pas juste ceux qui travaillent bien, c'est toujours pareil, c'est les plus forts parmi les autres, quoi. Donc, fin de la réunion, merci, au revoir, on ressort, tout le monde nous regarde passer comme ça, un peu ahuri, Je parle un peu avec un type qui me dit « Ouais, ça a l'air bien, ok, bon. » Donc ensuite arrive le moment où on doit s'inscrire, parce qu'en fait, une fois qu'on sort de cette réunion d'information, on n'est pas employé du tout, on n'a pas de boulot, hein. Il faut s'inscrire sur ce qu'ils appellent des shifts, et des shifts, donc c'est des créneaux horaires, donc en l'occurrence de 3 heures le matin ou l'après-midi, sur ce qu'ils appellent un hub, donc c'est un lieu duquel les plats partent pour aller chez les clients. Donc c'est là où nous, en tant que livreur, on va être centré, et on va faire des tournées, un peu comme un facteur, à partir de cet endroit-là, avec un nombre de paquets allant de 1 à 9, et on fait une tournée, et puis on revient au hub. Donc le type nous expliquait brièvement comment faire sur internet, donc je me retrouve sur mon PC, et en fait ça se passe donc le jeudi à 15h précise, il faut être connecté. Alors le type même nous précise qu'il faut être sur un ordinateur, avec une bonne connexion, ouvrir plein d'onglets en même temps, parce qu'en fait ça va être la course pour trouver le créneau quoi. Donc moi je fais tout ça, je me mets sur mon ordinateur avec tous les onglets et tout, je me prépare. Je reçois un texto qui me dit dans 10 minutes ça va s'ouvrir, donc je suis là, j'attends, évidemment ça met 20 minutes, une demi-heure, ça fait une demi-heure, je suis sur mon PC comme ça, j'attends. Et d'un coup je vois qu'il se passe quelque chose, je clique partout, je clique, et en fait il faut réserver, donc je clique réserver, je sais même plus sur quoi je clique, je sais même plus quelle heure, quel endroit, j'avais choisi à la base... un hub qui était pas loin de chez moi, je me retrouve à cliquer sur tous les hubs de tout Paris, je clique partout, et je suis là, ouais, j'ai trop l'impression que j'ai plein de boulot et tout, je suis content, et à la fin, je regarde, j'ai deux créneaux. Donc, comme je l'ai dit, moi, je voulais bosser à temps plein, j'avais vraiment besoin de gagner de l'argent assez rapidement, et je me retrouve avec 6 heures de boulot, et donc, au mieux, 60 euros pour la semaine prochaine, quoi. Donc, très déçu, mais je me dis, bon, je vais quand même essayer, quoi. Je me représente au hub dans le 9e, j'arrive, et là, oui, j'avais un téléphone, un smartphone, mais qui n'était pas 4G. Et donc, j'essaie de télécharger l'application, parce qu'évidemment, ils devaient m'envoyer un mail avec le nom de l'application qu'ils n'ont pas fait. Donc, je ne savais pas quelle application télécharger, j'arrive 10 minutes en avance, et mon smartphone n'est pas compatible, en fait. Du coup, je me retrouve à devoir trouver un smartphone en urgence pour pouvoir travailler, un smartphone 4G. Donc, je finis par trouver quelqu'un qui m'en dépanne un ami, je reviens donc avec une heure de retard. Et puis là, c'est parti, en fait, du coup, personne ne m'explique rien. Les managers me disent à peine bonjour, ils sont dans leur ordinateur. Les coursiers, ça tourne, c'est vraiment le moulin dans cet endroit. Des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Personne n'a l'air de vraiment se connaître. Donc, je finis par interpeller un manager à qui je demande des explications, qui me dit « Tu ferais mieux de demander aux coursiers, ils connaissent plus. » Donc, je demande au livreur, à un des coursiers, de m'expliquer un peu comment ça marche. Donc, il m'explique, il me dit « Voilà, là, il y a la chambre froide. Tu prends ton téléphone, tu vas scanner les sacs. » Quand j'arrive dans le hub pour commencer mon shift, il y a un écran sur lequel il y a un QR code. Donc, c'est une forme de code barre numérique que je dois prendre en photo avec mon téléphone. Et donc, en fait, cet ordinateur donc reconnaît ma présence dans le hub et c'est lui qui me donne mes tâches à accomplir. Donc, il me donne ma liste de livraisons que je vais devoir effectuer dans ma tournée. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de parler à personne, en fait. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. J'ai cette liste de sacs à prendre. Et en fait, dans la chambre froide, il y a des codes sur chaque sac. Et je dois scanner, encore une fois avec mon téléphone et encore avec un autre QR code, les sacs qui correspondent à la liste qui se retrouve dans mon téléphone. Une fois que j'ai fait tout ça, j'appuie sur un autre bouton qui me donne l'adresse à laquelle je dois aller. Et tu refermes ton sac, et puis t'appuies sur le bouton, et puis c'est parti, quoi. Et donc voilà, je me retrouve sur mon vélo à pédaler, et on me donne une adresse, j'y vais, avec le sac à dos, plein de courses à déposer chez les gens. Ça devient un peu un jeu aussi, une sorte de jeu d'orientation, c'est-à-dire que j'essaie de me repérer dans la ville, essayer de trouver l'adresse le plus rapidement possible sans consulter mon téléphone. Donc je me faufile dans les rues de Paris, j'essaie de trouver le bon chemin. Voilà, à Paris c'est bondé, il y a des voitures partout, des camions, il y a énormément de pollution. Je suis en surventilation parce que je suis dans un effort physique assez important, je sens vraiment que je bouffe de la particule fine. Il y a de la poussière, il y a des gens qui respectent pas le code de la route, donc c'est toujours un peu dangereux, il y a des gens qui sont pressés. Je finis par trouver la bonne adresse, voilà. après, on arrive devant chez le client nous dit bonjour, merci, au revoir. Alors oui, ils ont le BAM, ils appellent ça, c'est sourire, bonjour, au revoir, merci. C'est tout ce qu'on a à dire, en fait, dans notre journée. C'est tout ce qu'on doit savoir. Apparemment, les clients savent qu'on arrive. Je sais pas comment, mais ils savent qu'on arrive. Dès qu'on est là, ils sortent. Alors, soit ils sortent en bas, soit faut monter chez eux. On cogne à la porte, on est en sueur. Je donne la nourriture au client qui est content parce qu'on lui apporte à manger. Voilà, donc c'est mon smartphone qui va devenir mon guide et en même temps qui va être ma balance, quoi. C'est lui aussi qui va dire quand je suis en retard. Par exemple, un moment où quand je finis ma tournée, je retourne dans le hub et là, j'ai même pas besoin de scanner. Et la deuxième fois, mon téléphone est automatiquement détecté. Dès que je passe la porte, il sonne. Et tout de suite, j'ai une liste de commandes que je dois réaliser. Là, moi, ça fait 2 heures que je suis en train de courir partout. Donc, je prends un café en payant. Je bois mon café. Et là, quand je bois mon café, il y a quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone. « Bonjour, je suis un agent de chez Frishti. Comment ça se fait que tu n'es pas encore parti ?» Et je vais lui dire « Mais comment ça se fait que tu sais que je suis pas encore parti ?» Tu vois. Et en fait, c'est l'ordinateur qui a balancé que j'ai reçu la commande depuis 3 minutes et que je suis encore au même endroit, j'ai pas encore lancé le truc, quoi. Et donc là, je vais voir la manager, je lui demande, mais vraiment sans reproche, je lui demande, en fait, quand est-ce que je peux prendre une pause, en fait, dans cette histoire, quoi. Et elle me dit, bah, quand il n'y a pas de boulot. Et donc, en fait, voilà, tout ça est géré par cet ordinateur qui connaît tout sur mon rythme. Et c'est la seule personne avec qui je peux interagir vraiment, au final, avec qui je dois parler, à qui je dois dire c'est bon, j'ai fait ma commande, je passe à la commande suivante, la commande s'est bien passée, je scanne la commande. Enfin, c'est devenu notre collègue de travail, quoi. Notre collègue de travail et en même temps notre supérieur hiérarchique. Et surtout, on ne sait pas comment il fonctionne. Je me sens oppressé par cet ordinateur, en fait, qui me surveille, quoi. En 5 minutes, le jeudi, il n'y a plus de boulot. Donc, on doit être des centaines à vouloir bosser. Et tout le monde veut bosser. Et donc, c'est la compétition qui commence pour vouloir bosser. Et cette compétition, en plus, elle continue. C'est-à-dire qu'après, ils m'ont envoyé un mail quand même en me disant « Vous êtes que 437e sur 2000, roulez un peu plus vite. » Ça, c'est écrit, ça. Et du coup... Un des facteurs qui rentre en jeu aussi, c'est la vitesse. Et la vitesse en vélo dans Paris, c'est dangereux. Et la vitesse liée au fait qu'on ait l'impression que ça joue sur notre rémunération, voilà, vitesse plus argent égale danger. Je comprends pas bien même le truc du chronomètre, c'est qu'en fait je me rends compte qu'au bout d'un moment il y a un chronomètre sur l'application, que mon téléphone commence à sonner et qu'en fait il y a un chronomètre rouge qui s'affiche et qui me dit je suis en retard. Et donc je sais pas pourquoi, par rapport à quel temps, et en fait je crois comprendre qu'il se réfère à les trajets en vélo de Google Maps. Et en fait nous, simplement, déjà il y a un trafic monstre à Paris à ces heures-là, donc on est ralenti. Et en plus on a des temps de trajet entre les livraisons, c'est-à-dire qu'on doit accrocher notre vélo, on doit appeler le client ou faire son code, monter à l'escalier, l'attendre, regarder notre itinéraire suivant, boire une gorgée d'eau, redescendre, reprendre son vélo, regarder un peu où est-ce qu'on est dans Paris. Voilà, tout ça, ça prend du temps et ça fait qu'en fait je suis tout le temps en retard, quoi. Moi, j'ai pris ça comme une sorte de pression et je me suis mis à rouler toujours plus vite. C'était devenu une sorte de jeu aussi. Je voulais ne plus être en retard. Je voulais arriver même avant le truc. Si c'était 3 minutes, il fallait que j'arrive en 2 minutes. Et du coup, je me surpassais. Je grillais tous les feux rouges. C'est tout droit. Et puis, même dans mon effort physique, c'est fatigant. Au bout d'un moment, je prends pas le temps de respirer. Je prends pas le temps de faire une pause. Je prends pas le temps de boire un verre d'eau. Je me suis senti robotisé, et en fait, ça aurait pu être moi ou un drone qui faisait le boulot, ça aurait été pareil, quoi. C'est-à-dire que, mais ce sera le cas bientôt. Bientôt, ce sera des drones qui feront ce boulot à notre place. Et puis, ce sera très bien. C'est-à-dire que, en fait, on est programmé, en fait, comme un ordinateur. On nous dit, va à telle adresse avant 3 minutes, va à telle adresse avant 15h52, va à telle adresse avant 15h58, reviens, prends tel sac, mets-le dans ton sac, repars à telle adresse. Enfin, je me suis senti, comme une espèce de pion dans un espèce d'échiquier numérique. Donc l'après-midi, je me retrouve dans un autre hub, donc dans le 18e. Et là, je vois qu'il y a pas mal de gars qui sont posés devant à attendre, qui font rien. Donc j'arrive, je parle avec un type, et le type me dit que ça fait 4 heures qu'il est là, et qu'en 4 heures, il a fait qu'une seule course, et donc il aurait gagné que 15 euros. Alors c'est ce qu'il montre sur son téléphone. Et le mec me dit, entre zoner ici et zoner ailleurs, autant zoner ici. Et là, je me dis, waouh, quand même, on en est là. C'est-à-dire que les mecs sont dans une telle détresse pour trouver du travail qu'ils sont prêts à attendre devant le hub en attendant qu'on leur donne un peu de boulot, quoi. Et puis le mec s'ennuie, clairement, et puis ça sent que ça l'affecte, qu'il est un peu bloqué dans sa vie, quoi, qu'il passe ses soirées dans ce truc, sans forcément bosser. Donc, moi, ça m'affecte quand même pas mal. Et du coup, quand on retourne au hub, on nous donne notre prochaine tournée, et là, plus on a de commandes dans notre prochaine tournée, plus on est content. Et parfois, on nous donne juste une commande. Ça m'est arrivé de monter une commande de genre 100 grammes, tout en haut de Pigalle. Ça m'a pris, je sais pas, peut-être 20 minutes aller-retour pour une commande, quoi. Et du coup, quand on fait une commande, je crois qu'on gagne 1,50€ plus les 5 euros de l'heure, quoi. Donc effectivement, plus on a de commandes, plus on est content, plus on dit qu'on va gagner de l'argent. Et je finis par avoir des commandes, du coup je retourne, je fais le tour du 18e, bon là je me retrouve dans des côtes évidemment, à grimper chez les gens, plus les gens d'avant, plus il se fait tard. Ah oui, c'est la nuit aussi, la nuit je me rends compte que c'est plus dangereux, je vois des mecs qui roulent sans lumière, sans casque, avec des freins cassés. Ça commence à être fatigant, on voit plus les adresses, on voit plus les numéros, on doit regarder le GPS, donc on est un peu ébloui, enfin bon, tous les risques de la conduite de nuit. Alors je sens que plus mon état dépérit, plus les gens me disent bon courage. À la fin de la journée, je sens que j'ai vraiment une sale gueule et que les gens sont là, bon courage hein, quand même. Voilà, et donc je finis ma journée à 23h épuisé. Le type me propose de faire des heures sup, je lui dis non merci, ça, pour moi ça ira quoi. Et puis je rentre chez moi complètement déboussolé, j'avais complètement perdu mon sens de l'orientation parce qu'en fait toute la journée on tourne en rond, je savais même plus où j'étais. Je descends d'un escalier, je me dis mais je suis où là, il est où le nord, il est où le sud, alors que j'ai quand même un bon sens de l'orientation. Mais à la fin j'avais vraiment le tournis en fait, à force de tourner en rond dans les quartiers, je savais plus où était mon vélo, je savais plus comment je m'appelais, c'était un peu étourdissant quoi. Et donc, à peu près à la fin de la journée, j'ai dû gagner 60 euros de chiffre d'affaires sur 6 heures. Et sur ces 60 euros, après, je dois payer mes cotisations. Et surtout, voilà, j'ai pas d'arrêt maladie, j'ai pas de chômage, j'ai pas de mutuelle. Voilà, il n'y a pas tous les avantages sociaux qu'aurait un salarié, quoi. Après, j'ai vu des mecs qui avaient le statut Gold, mais c'est pas pour autant que c'était la panacée, quoi. Je parle d'un petit qui bosse 7 jours sur 7, donc il fait 7 heures par jour, 3h30 le matin, 3h30 l'après-midi, avec une coupure de 3 heures au milieu, et donc ce type qui bosse 7 jours sur 7 me dit qu'il gagne dans les bons mois 1200 euros de chiffre d'affaires, toujours, hein, faut pas confondre avec du salaire, et puis il me dit qu'il a la fièvre quand il rentre chez lui le soir, qu'il est malade, qu'il est pas bien, qu'il en peut plus, que ça fait 8 mois que ça dure, mais qu'il a pas le choix, qu'il trouve pas autre chose. Le type bosse 49 heures par semaine, 7 jours sur 7, et qui gagne pas le SMIC, quoi. Tout est à nos frais aussi, ah oui, tant qu'on y est, le vélo est à notre frais, le casque, si on veut mettre un casque, c'est à notre frais. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve le plus abusé, il pourrait donner un casque et des lumières de sécurité, ce serait vraiment la base, quoi. Donc tout est à notre frais, le smartphone, tout, il n'y a pas de représentation du personnel. Comme on est considéré, en fait, comme étant des partenaires d'entreprise en entreprise, il n'y a pas ce rapport de force que pourraient avoir des employés avec leur direction. Donc s'ils veulent nous acheter, s'ils veulent nous payer, ils nous payent. S'ils veulent travailler avec nous, ils travaillent avec nous. Sinon, on veut pas, et ben ils vont travailler avec quelqu'un d'autre. On est des associés. Et donc, en tant qu'associé, on peut pas demander à un associé d'améliorer nos conditions de travail. Vous voyez, donc il y a une sorte de paradigme qui fonctionne pas, qui fait qu'il y a aucune pression, et qu'en plus, comme il y a une énorme pression sur le marché de l'emploi, parce que tout le monde veut bosser, et ben ils se permettent de faire tourner à la chaîne les mecs les uns après les autres. Quand les mecs sont épuisés, quand ils n'en peuvent plus, et ben, y en a 100 derrière qui sont prêts à bosser. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu avec ces auto-entrepreneurs, ces livreurs, c'est en gros des sous-employés, quoi. Le code du travail est aussi en train de se faire massacrer, mais il protège encore un peu. Et puis, de l'autre côté, on va avoir ces auto-entrepreneurs où là, c'est la roue libre. On les paye combien on veut, on les fait bosser 7 jours sur 7. Et du coup, on va se retrouver avec une société à deux vitesses, avec les gens qui auront le droit à un vrai emploi et puis les gens qui auront des sous-emplois. Donc maintenant, je cherche du boulot et tout ce qu'on me propose, c'est auto-entrepreneur. J'ai téléchargé une nouvelle application qui permet de remplir toutes les tâches diverses et variées. Je peux faire de la manutention, je peux faire du marketing, je peux faire de la vente. Et tout est sous le statut d'auto-entrepreneur. On vit plus chez nos parents, on a tous besoin de bosser et on est tous au chômage. Il y en a plein qui sont au RSA, même chez des gens qui sont diplômés, des gens qui sont Bac plus 5. Donc à un moment, on se retrouve à se dire, on cherche du boulot. Et puis les seuls trucs qu'on nous propose, c'est ça. Voilà, je postule aussi chez d'autres plateformes de livreurs et puis dans un autre travail de réparateur à vélo, ambulant. Donc toujours en auto-entreprise, mais avec des conditions de travail qui m'ont l'air plus dignes, plus respectueuses, avec des équipes réduites où les gens se connaissent, où il y a un lien d'humain à humain et pas un lien d'humain à ordinateur-humain. Quoi. Ouais, ou d'ordinateur à humain, ouais. Ou d'algorithme à livreur.
C'était Jules, le livreur à vélo, un reportage de Rémi Douat réalisé par Clémence Grosse. Merci à Jules Salé et à Jérôme Primo. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.